Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 551 du podcast Touchdown Actu. Alors Mathieu, très heureux de vous retrouver. On commence à débriefer la semaine 13 de NFL en 2022. À mes côtés pour le faire, Lucas Vola. Bonjour Lucas.
Salut Alain, si je peux me permettre, on continue. Je crois qu'on nous a écouté hier en train de débriefer le premier match de jeudi.
En le disant, en plus, je me suis dit, je dis une bêtise. Mais bon, voilà, on commence les matchs du dimanche en tout cas. Lucas, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler des Bengals qui rappellent pourquoi ils étaient finalistes du Super Bowl. On va parler des Niners qui gagnent malgré un gros pépin et des Vikings qui s'imposent. C'est notre trio d'affiches du jour avec toi, Lucas. Et tu l'as dit, tu étais déjà là pour commencer le jeudi. Donc on enchaîne, on continue. Et on enchaîne avec les Bengals qui l'emportent 27-24 contre les Chiefs. 3 victoires de suite pour les Bengals contre les Chiefs. 3 victoires en 2022 sur l'année calendaire. Kansas City menait 24-17, mais Cincinnati a marqué les 10 derniers points du match. Ils sont passés devant à quasiment 9 minutes de la fin et ils ont gardé le score pendant toute la fin de partie. Est-ce que tu as été étonné de voir les Chiefs ne pas réussir à être explosif en fin de match, parce que finalement il leur restait quand même 9 minutes. Quand on voit le score, on se dit les Bengals sont passés devant à la fin et puis ils ont arraché le truc, mais en fait non, ils ont empêché les Chiefs de marquer à la fin.
Oui, ils ont empêché les Chiefs, ils ont été solides en défense, ils n'ont pas simplement été bons en attaque, et c'est vrai que c'est un petit peu étonnant du côté de Kansas City, parce qu'on n'avait pas vu grand monde les stopper depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que cette équipe des Bengals, c'est un petit peu la kryptonite des Chiefs, tu l'as dit, 3 victoires, et en plus, bon, le petit clin d'œil sur l'année calendaire en plus. Mais en tout cas, quand on voit ça, moi, le premier sentiment que j'ai eu à la fin de ce match, c'est j'ai envie de revoir ça en playoff, parce que pour le coup, certes, les Chiefs n'y arrivent pas en fin de match, mais c'est quand même un match incroyable. Les deux quarterbacks, franchement, les deux quarterbacks, s'ils peuvent nous faire des duels comme ça pour les 10 prochaines années, je signe tout de suite. Franchement, c'était un match hyper excitant et hyper sympa à suivre en tout cas.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé depuis un an ou deux de la rivalité Chiefs-Bills. Cette année, on disait il y a eux et les autres dans l'AFC, etc. Mais en fait, il y a une vraie rivalité Chiefs-Bengals aussi, quoi, qui est en train de naître et dans le même genre, quoi, avec un super duel, quoi. Tu le disais, c'est incroyable.
Oui, parce qu'en fait, la rivalité, c'est un peu particulier, parce que la rivalité Chiefs-Bills, c'est une équipe qui n'arrive pas à en battre une autre, et les Bills n'arrivent pas vraiment à passer l'ogre Chiefs. Et alors que là, c'est l'ogre Chiefs qui est battu et qui a une équipe qui leur pose des soucis à chaque fois. Alors, la première fois l'année dernière, c'était en saison régulière, on se dit, c'était une explosion offensive, si je me rappelle bien, et on se dit, bon, ça c'est allé sur un coup, Burrow a pris feu. Puis ça a été en playoff, en finale AFC, où on se dit, ah oui, quand même, ils les ont battus en playoff sur une prolongation, et puis là ils le refont de nouveau. C'est vrai que c'est pour moi pour l'instant une rivalité qui est au moins, allez, on va dire, tout aussi excitante à voir que ce Bills Chiefs.
On l'a dit, donc la surprise, je sais pas si c'en est une, mais en tout cas, c'est la prestation défensive des Bengals avant tout pour moi. Ils ont réussi les Chiefs que deux actions de plus de 20 yards sur ce match. Ils ont échoué sur les gros jeux. Alors forcément, je vais te dire ça, ça fait forcément plus facile à dire qu'à faire, mais donc la clé pour stopper Kansas City et les battre, c'est de limiter les gros jeux. Mais comment tu fais? Comment ils ont fait ces Bengals?
Ouais, c'est sûr que la clé, c'est de bien défendre sur Kelsey, de pas laisser Mahomes envoyer des ballons et puis de pas prendre des points contre les Chiefs et de leur en mettre plus que ce qu'ils en marquent. Ouais, voilà, la clé, c'est ça. Voilà, c'est facile. Et puis c'est le fameux Jean-Michel portes ouvertes. Mais bon, ce qui est vrai, c'est qu'ils défendent souvent très bien face à Travis Kelsey. Ouais. C'est souvent très bien défendu. En plus, là, le tight end qui perd un ballon, qui perd un fumble, qui est relativement coûteux tout de même. Alors ça, c'est plus,
c'est le tournant du match, hein, quasiment.
Voilà, c'est globalement le tournant du match.
Ils ont le ballon, on rappelle, pour prendre. Ils ont déjà l'avantage, ils ont le ballon pour vraiment creuser le trou, quoi. Et ils perdent ce ballon-là. Et ouais, c'est le tournant du match.
Exactement. Alors, bon, c'est plus une action, on va dire, une fois que le jeu, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, ils l'ont quand même mis en difficulté. Et c'était pas la première fois, on s'en rappelle. Ils arrivent souvent à bien défendre face à Travis Kelsey. Alors oui, il y a toujours des bons joueurs autour, même si Tyreek Hill est parti. Mais ça reste quand même le joueur principal de Patrick Mahomes. Et on le voit, quand il est un peu moins important dans le jeu, ben forcément, il y a un peu moins ces gros jeux, il y a un peu moins d'espace. Alors tu l'as dit, il y en a eu un pour le MVS, je crois que c'était enfin en deuxième mi-temps, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins, et du coup, pour moi, c'est vraiment ça la clé, c'est la défense, et très peu d'équipes arrivent à le faire, quasiment aucune, c'est la défense vraiment sur Kelsey qui est très importante pour moi.
Ouais, pas mal de pression, une action décisive dont on parlait. Donc le coordinateur, je rappelle pour les Bengals, c'est Lou Anarumo, qu'il faut quand même saluer. Et puis l'attaque, quand même, hein, des points sur leurs trois séries de la deuxième mi-temps et un dernier drive pour manger plus de 3 minutes. Pour éviter de rendre le ballon, l'attaque a été extrêmement bien équilibrée du côté de Cincinnati. 34 courses pour 152 yards, 31 passes pour 286 yards. Jamar Chase qui était de retour, qui a pris 7 ballons pour quasiment 100 yards. Quand ils sont comme ça, en plus, c'est très très dur de les stopper, parce que même sans Joe Mixon, qui est toujours pas là, t'as plus de 150 yards au sol, t'as 286 à la passe, c'est très très dur à contenir. Comment tu conviens ça, quoi?
Bah t'as tout dit, c'est qu'ils font ça sans Joe Mixon, Jamar Chase revient, il est performant quasi instantanément, les playmakers sont bons, Jamar Chase, Pirine, il y a des touchdowns qui sont inscrits, il y a Joe Burrow qui est bon, c'est très difficile à contenir, la petite faiblesse, on va le dire, c'était l'année dernière, c'était cette ligne offensive, elle a été un petit peu en début de saison, elle commence à être de mieux en mieux, Burrow commence à être de plus en plus à l'aise, donc franchement ça commence à être une attaque extrêmement complète, enfin je dis ça commence à l'être depuis un moment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie attaque, une attaque qui peut regarder les yeux dans les yeux, l'attaque des Chiefs, et ouais, on l'a vu.
C'est ce que j'allais te dire, il y a presque un meilleur groupe de receveurs, parce qu'en fait Chase, Higgins, Boyd, voilà, il y a Kelsey, hein, pour, en face, mais Smith-Schuster, Marquez Valdez-Scantling, c'est pas du niveau de Chase et Higgins sur les extérieurs. Et tu le disais, Burrow, l'affiche, elle est quand même assez impressionnante. 25 sur 31, 286 yards de touchdown, il prend qu'un seul sac. Et c'est ce que tu disais, une fois que la ligne offensive commence à être efficace, bah, ça devient drôlement difficile de les bouger en attaque. Et ils sont. Ils peuvent dérouler en fait un peu dans tous les sens. Et Zach Taylor, là pour le coup, on parlait du boulot défensif. Zach Taylor, son domaine, c'est plus l'attaque. Ça commence à aussi être très impressionnant de ce côté-là.
Surtout que c'est très, on va dire, c'est polyvalent. On l'a dit, Mixon n'était pas là, et puis Ryan est bon et dépasse les 100 yards. Je crois qu'il est à 106. Cette ligne offensive, elle est bonne dans la protection de passe, elle est bonne dans les ouvertures de brèche au sol. Du coup, c'est difficile de choisir quelque chose. Quand on est en défense, on est obligé de défendre partout. Et pour le coup, la défense des Chiefs, elle est pas assez bonne pour tout contenir. Et donc, du coup, elle va laisser une ouverture d'un côté ou de l'autre. Cette équipe des Bengals, elle est capable de saisir chaque fois qu'on lui propose quelque chose. Donc franchement, c'est vrai que là, les Bengals, il faut, quand ça joue comme ça, il faut soit une défense énorme, mais vraiment incroyable, et il n'y en a pas beaucoup en NFL, soit essayer d'être meilleur en attaque, mais c'est de l'autre côté, donc c'est pas évident quand la défense des Bengals est bonne comme ça aussi.
Ce qui est incroyable, en fait, c'est que c'est une victoire totale. Il n'y a aucun ballon perdu pour les Bengals. Ils ont plus de yards, plus de temps de possession. Et c'est assez rare, finalement, que Kansas City se fasse battre vraiment dans tous les domaines comme ça, sur les yards, sur les ballons, surtout. Et en fait, Patrick Mahomes, alors, n'a pas une grosse fiche, hein, 223 yards d'un touchdown, mais tu te dis presque qu'ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Il leur arrive ce qu'ils font subir aux autres souvent, c'est que, bah, en face, ça fait un grand match et c'était juste plus fort, quoi.
Oui, c'est ça. Pour moi, ils sont plus forts. Et je me suis même dit, il y a deux actions où je me suis dit, les Chiefs vont passer le pas et passer le cap et avec un petit peu plus d'expérience que les Bengals. Quand Carlos Dunlap arrête en fin de première mi-temps sur une quatrième tentative, ce qui devait être quasiment un touchdown, il empêche la course et il fait un super plaquage pour faire le turnover. Et puis il y a aussi en début de deuxième mi-temps un ballon qui doit être un touchdown, je crois que c'est, alors je me suis noté, je sais plus si c'est Tyler Boyd, je crois que c'est Tyler Boyd qui prend le ballon sur la tête alors que c'est un touchdown tout fait, et je me suis dit ça c'est des choses que face aux Chiefs on peut pas faire et ça va payer cash. Et en fait non, les Bengals ont résisté, les Bengals ont été bons et comme tu l'as dit ils ont été meilleurs que les Chiefs sur la totalité du match malgré ces deux petites actions dont je parle. Et en effet, c'est ce qui me fait dire que les Bengals sont un vrai candidat pour les Chiefs. En tout cas, parce qu'on imagine les Chiefs favoris, ça va être une vraie épine du pied pour eux dans cette course au play-off, enfin surtout dans cette course au Super Bowl, parce que presque les Bills, c'est une grosse équipe, mais qu'on bat tout le temps. Mais la Bengals, c'est l'inverse, c'est une grosse équipe qu'on n'arrive jamais à battre. Donc je pense que c'est pas évident.
Après, attention quand même, parce que les Chiefs ont déjà justement perdu contre les Bills cette saison régulière, puisque les Bills ont un peu vaincu leur malédiction, donc ils ont perdu contre les Bills, contre les Bengals en saison régulière. En tout cas, ça annonce des playoffs assez dingues. En AFC, il y a vraiment du matos de partout, là, ça va être un parcours du combattant pour celui qui va sortir. On file en AFC, on file en NFC, mais voilà, c'est un match interconférence, donc il y a les deux. 49ers 33, Dolphins 17, un match qui a commencé avec Jimmy Garoppolo et Tua Tagovailoa, qui s'est terminé avec Brock Purdy et Skylar Thompson. On va vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'ils ne sont pas tous les deux sortis au même moment. Mais saison terminée pour Jimmy Garoppolo à cause d'une fracture au pied. C'est quand même l'info probablement essentielle de ce match, malheureusement pour les Niners. Sur ce match, Lucas, sur ce match uniquement, on peut dire qu'ils n'ont pas trop peur d'y au change.
C'est beau. Non, ils ont. J'ai honte. je la sentais arriver. Je savais pas où, parce qu'il y a quand même
un
panel.
Elle est écrite dans mes notes.
Il y a un panel, mais non, c'est beau. Mais c'est vrai. En plus, c'est vrai que pour le coup, alors. Est-ce qu'ils ont perdu au change ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il est arrivé, c'est un rookie, de ce que j'ai cru comprendre, honnêtement, je ne le connaissais
pas.
Dernier
choix de la draft, ouais.
Voilà, on va pas se mentir, et il est arrivé, et il est... Moi, si une personne regarde ce match-là et ne sait pas qui est Purdy, à aucun moment on se dit que c'est un rookie, à aucun moment on se dit que c'est le dernier choix de la draft et qu'il est là un petit peu parce qu'il fallait prendre quelqu'un, je caricature volontairement.
Je préviens d'avance parce que on n'était pas nombreux à le connaître très bien, de toute façon, avant ce match, on va pas se mentir. Donc, dans l'émission de jeudi, la preview, on fera un focus avec Victor qui suit la NCAA, justement, sur les 49ers et leurs perspectives et sur Brock Purdy pour vous le présenter un petit peu plus en détail. On va vraiment analyser ce match-là, mais dans la preview de jeudi, on vous donnera les perspectives sur Purdy. Mais dans ce match-là, 25 sur 37, 210 yards, 2 touchdowns, 1 interception, comme tu disais, il mène son équipe à un touchdown sur son premier drive où il rentre. Un autre touchdown avant la mi-temps pour le 17-10. Derrière, il n'y a plus que deux field goals. La défense prend le relais. Il marque un touchdown pour tuer le match sur un fumble. Mais au final, c'est vrai qu'il n'est pas honteux quoi, sur sa rentrée.
Ah, il est loin d'être honteux. Alors après, de toute façon, on le dit depuis des années à San Francisco, Jimmy Garoppolo, c'est quand même pas l'atout numéro un. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se rappelle, il était pas dans les plans en début de saison et qu'il est là parce que Trey Lance est absent aussi. Au passage, les 49ers sont quand même pas bien vernis, il faut le dire. Mais donc, il était pas forcément dans les plans parce que c'est pas un quarterback qui va faire des miracles sur les matchs et que c'est surtout le schéma offensif qui fait que le quarterback peut performer ou en tout cas évite de grosses erreurs. Donc ils mettent ce quarterback là, tu l'as dit, qui aurait pu être soumis à la pression, qui aurait pu faire des erreurs, il en fait peu, il en fait pas beaucoup. Il est assez serein. Après il fait ce que le jeu lui demande et ce que certainement Kyle Shanahan a mis en place. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est dans cette attaque mine de rien parce que c'est un rookie, mais on est déjà à la semaine 13, donc ça fait quelques mois même. C'est vrai que voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, il a distribué un petit peu, les playmakers se sont pas réveillés mais ils étaient présents. McCaffrey a fait du boulot, on le voyait, hein, c'était une passe pour George Kittle, une passe pour McCaffrey, en deuxième mi-temps ça a été du Deebo Samuel, en veux-tu, en voilà. Kyle Shanahan a raison, il met un peu moins de pression sur son quarterback, le quarterback qui évite les erreurs, et ça donne ce match-là.
Je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais quand le joueur qui a la meilleure santé dans son effectif, c'est Christian McCaffrey, c'est un peu flippant quand même.
qui ne s'est pas beaucoup entraîné la semaine dernière en plus. Hein, si
ouais, j'ai un peu peur. Et alors, on vous le dit, parce qu'au moment où on enregistre, les Panthers viennent de couper Baker Mayfield. On ne sait pas si ça veut dire que les 49ers pourraient se jeter sur lui. On en parlera aussi sûrement jeudi, si selon que ça a été fait ou pas. L'histoire de ce match, c'est quand même avant tout une domination défensive de San Francisco. 3 sacs, 5 pressions sur le quarterback, rien que pour Nick Bosa, les 3 sacs et les 5 pressions. 4 ballons perdus par Miami, dont 2 interceptions de Tua Tagovailoa. Seulement 19 minutes de possession pour les Dolphins. 0 sur 7 en troisième tentative pour Miami. Quel match défensif, Lucas, pour le coup. C'est vraiment ça, leur identité, quand même, d'abord. Hein.
Pour changer, j'ai envie de dire. Alors là, oui, ils prennent des points. Et ils prennent des points en deuxième mi-temps. Faut les excuser, parce que d'habitude ils en prennent pas. Et ils en prennent peu en deuxième mi-temps. Mais au-delà de ça, c'est vrai que leur identité, elle est défensive. C'est pour ça que le quarterback, j'irai pas jusqu'à dire que c'est pas important, mais c'est un peu moins important que pour d'autres équipes. Leur identité est défensive. On parle quand même d'une attaque de Miami qui est censée être l'un des mastodontes de cette équipe, parce qu'on le voit depuis le début de la saison quand même. L'attaque de Miami, elle tourne à plein régime, et il n'y a pas beaucoup de défenses qui ont réussi à la ralentir. Et là, pour le coup, ils l'ont bien ralenti. T'as donné ces statistiques-là. Mais c'est vrai qu'il y a ce premier jeu qui donne un touchdown de 75 yards, je crois. Puis derrière, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Sur tous les autres jeux, il n'y a plus que 10 points qui sont inscrits. Premier jeu, 7 points. Le reste, c'est 10 points. Donc, c'est en effet très impressionnant pour cette défense de San Francisco, qui est pour moi, et je pense que je surprends pas grand monde, la meilleure défense de la Ligue.
Oui, et puis pour le coup, tu parlais des 75 yards, donc sur la première action du match par Trent Sherfield, si tu enlèves ça, ils ont gagné à la louche 230 yards, grosso modo. Ça fait plus grand-chose pour une attaque qui carburait autant et qui était si forte. Tua Tagovailoa fait un petit match. Alors, il y a 295 yards, mais il y a surtout deux interceptions, il y a des lancers plus difficiles, il y a beaucoup de pression. Moi, j'ai l'impression qu'on a surtout senti l'absence des tackles aussi, qui fait mal, parce qu'il manque Terron Armstead, il manque beaucoup de protection. Ou alors, je n'ai pas vu grand-chose. Je peux pas dire que je suis inquiet, tu vois, après un match comme ça, parce que c'était la meilleure défense de la Ligue en face.
Non, clairement, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je pense que Miami, de toute façon, c'est une très bonne équipe, mais pour l'instant, c'est pas une équipe qui est encore capable de battre n'importe qui, n'importe quand. Forcément, il y a des matchs où ils vont être un peu chahutés. Il y a des matchs où ça va être un petit peu plus compliqué. Là, tu as Tagovailoa, qui est très bon depuis le début de la saison, a eu pas mal de lancers un peu imprécis, des lancers souvent trop haut ou un peu trop longs, sur des receveurs qui, pour le coup, avaient parfois fait la différence. Et donc c'est d'autant plus rageant. Mais ça vient de la pression, tu l'as dit, parce que la ligne offensive était un petit peu remanié, parce qu'en face il y a une ligne défensive et un pass rush qui est incroyable. Et donc quand on a la pression, même si c'est pas un QB hit comme on dit, ou un sac, on voit un joueur qui est là, on voit une poche qui est un peu moins sereine que d'habitude, et soit on accélère notre lancer, soit on lance un peu trop loin, un peu trop haut. C'est clairement un effet de ce pass rush. Donc il y a pas d'inquiétude, parce que il y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de faire autant que les 49ers. Maintenant c'est en effet les marges de progression de Miami qu'on a aperçu là dimanche.
Miami, on le disait, donc retrouver notamment en plus ses tackles. Le jeu au sol a été complètement stoppé en plus, ce qui a accentué la pression sur Tagovailoa. Il n'y a que 33 yards au sol, ils n'ont pu courir que 8 fois. Donc c'est vrai que c'est pas trop dans leurs habitudes non plus. La suite, je parlais des blessures, donc Tagovailoa lui est sorti en fin de match. C'est pas aussi grave que Garoppolo. Blessure à la cheville qui n'a pas l'air trop grave. Non, je te vois faire la moue.
Non, mais je pense.
C'est pas annoncé trop grave.
Non, mais c'est pour ça. Je pense que là, il sort. Le score est déjà très très bien entamé. Il y a plus grand chose à espérer. Il est peut-être un peu touché. Je pense que c'est autant de la blessure que de la gestion. Je pense. Après, je suis pas médecin.
Bon, en tout cas, oui, c'était plutôt rassurant, donc on va pas trop s'inquiéter là-dessus. Les Niners, on l'a dit, ils se retrouvent une nouvelle fois dans le flou. Ils vont utiliser leur troisième quarterback titulaire de la saison, après Trey Lance, après Jimmy Garoppolo. On fera un focus là-dessus jeudi dans l'émission avec Victor. On termine avec les Vikings 27, les Jets 22. Les Jets ont eu deux fois le ballon pour passer devant en fin de match. Échec sur quatrième tentative à 1 yard de la end zone à 1 minute 46 de la fin. Et puis interception de Mike White, à 19 yards de la end zone à 16 secondes de la fin. C'est pas passé loin. C'est peut-être là qu'on se souvient que Mike White est un peu limite, ou alors au contraire, on se dit ils ont été dans ce match après tout, et c'est déjà une belle chose, Lucas.
Les deux, j'ai envie de te dire les deux. C'est là qu'on se souvient que Mike White est un peu limite et que c'est pas Joe Burrow ou Patrick Mahomes, mais c'est là qu'on se souvient aussi que ils sont dans le match et que je pense qu'avec Zach Wilson il l'était plus. Donc il fait pas un énorme match, il lance beaucoup parce que c'est le jeu qui demande de beaucoup lancer. Il est parfois imprécis, il manque beaucoup de passes. Maintenant il en réussit aussi pas mal. Il y a des joueurs qui émergent ou qui réémergent, des noms qu'on citait plus beaucoup depuis le début de la saison, Garrett Wilson qui fait un match énorme, Corey Davis bon qui revient, qui était blessé mais qui touchait pas trop le ballon, Elijah Moore c'était la semaine dernière mais on le voit un petit peu plus. C'est un joueur qui est perfectible, qui est pas forcément un quarterback élite mais qui peut faire avancer son équipe. Maintenant tu l'as dit, il tombe contre une équipe mine de rien qui est parmi les meilleurs en NFC malgré le fait que ils font des matchs en montagne russe à chaque fois, mais voilà, j'ai envie de te dire les deux, Mike White est certainement perfectible mais il donne des chances à son équipe tout de même.
En fait, bon, il s'est retrouvé obligé de lancer 57 fois hein, quand même, ce qui n'était pas tout à fait le script, à mon avis, espéré par les coachs new-yorkais. Il se retrouve avec 369 yards en 31 passes complétées, 2 interceptions, aucun touchdown. Il y a une balle qui aurait pu être captée en 4e tentative par Braxton Berrios, qui leur fait mal aussi. Moi, là où je voyais le positif, c'est de se dire, comme tu disais, en fait, ils sont quand même menés 17 points dans le second quart. White se démonte pas, ils reviennent, ils ont une chance de gagner le match. Il a réussi une grosse 4e et 10 en trouvant Corey Davis aussi en fin de match. Donc, j'ai quand même envie d'être positif et de me dire qu'ils continuent d'apporter de l'espoir. Ils ont toujours une défense qui fait du gros boulot. Donc, ce n'est pas une équipe qui tombe. Ils n'ont pas eu juste de la chance. Enfin, ils ont pas eu de chance sur ce match-là. Mais je veux dire, on voit qu'ils ne sont pas là par chance, quoi. Ils ne sont pas à 7-5 par chance. Ils sont en train de construire un truc qui est solide. Après, est-ce que White est la solution à long terme ? Ce n'est pas sûr. Faut voir comment ils vont se débrouiller à l'intersaison sur ce dossier-là qui est évidemment toujours le plus compliqué de la NFL. Mais ouais, moi je trouve que ce match il donne quand même des motifs d'espoir au sens où t'as 120 yards, au sens où tu remontes 17 points, au sens où t'es dedans, la défense est dedans. Garrett Wilson est encore exceptionnel, 162 yards. Il y a une vraie connexion qui est en train de se créer et même à mon avis, c'est pas dépendant de Mike White, ça a l'air d'être un super joueur. Donc il y a plein de motifs d'espoir même dans cette défaite en fait.
Mais très clairement, on va se rappeler quand même qu'ils jouent les Vikings à Minnesota, une équipe qui n'a perdu que 2 matchs depuis le début de la saison. Alors on peut dire ce qu'on veut sur les Vikings, c'est une équipe qui perd pas beaucoup pour aller gagner. Et en plus là-bas, ils ont perdu qu'une fois à domicile. Il faut faire un match énorme. Et là ils sont dans le match. Tu l'as dit, ils sont à peu de choses de gagner ce match-là. Et en effet, Mike White, je pense, s'intègre bien dans cette équipe qui a du caractère. Je pense qu'on est en train vraiment de le voir cette saison. Il y a du caractère. Il y a une 4e tentative qui est arrachée. Tu l'as dit. Il y a aussi un touchdown qui est arraché aussi. Je crois que Mike White marque un touchdown au sol sur un sort de QB sneak ou en tout cas quelque chose. Il est arrêté et finalement il continue. Enfin, on sent que c'est une équipe qui a envie, qui est volontaire, qui a quelques voilà, encore une fois, une marge de progression, et le quarterback en fait certainement partie, mais c'est une équipe qui va certainement aller en playoff, et franchement ça sera pas un match gagné pour l'équipe qui va le rencontrer en playoff.
Va falloir voir pour les playoffs parce que ça risque d'être dur quand même. Ils jouent Bills, Lions, Jaguars, Seahawks, Dolphins pour finir la saison. Ils sont à 7-5.
Bon, je leur souhaite, mais... Est-ce que dans la playoff pictures, comme on dit, ils y sont actuellement parce que...
Bon, après, ça va avancer, ça va encore se décanter. Hein, on a encore un peu de marge avant d'être dans le dur. Mais,
je mets ma petite pièce en tout cas.
Ils sont 7e, ils sont sur le dernier siège. Bon, après, derrière, c'est les Patriots, c'est les Chargers qui sont pas en bon état. Hein, donc ouais, ça peut être... disons qu'il va falloir en gratter. Il y a des matchs durs, il y a des matchs durs. Bon, on y viendra, évidemment. Les Vikings, tu l'as dit, alors ils ont fait ce qu'ils font depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'ils ont gagné, mais ils ont aussi fait ce qu'ils font depuis le début de l'année, c'est-à-dire être irrégulier en attaque, être opportuniste en défense, gagner un match serré. C'est exactement... Enfin, ce match, c'est leur saison, quoi.
Exactement, c'est, je l'ai dit, les montagnes russes. Ça commence très bien, et puis c'est un peu plus compliqué. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils sont juste peur. Puis ensuite, il faut marquer un touchdown absolument. Donc du coup, Kirk Cousins redevient un joueur incroyable où il fait 5 sur 5 ou 6 sur 6 sur ce drive. Et puis ça marque un touchdown. Et puis d'un coup, c'est un peu plus compliqué. La défense qui tient, puis qui commence à lâcher un petit peu. Puis finalement, qui tient quand même deux drives très proches de la end zone, tu l'as dit. Puis l'attaque, du coup, qui n'y arrive plus. Donc il faut... Et en fait, c'est ça. Et puis finalement, tous les matchs à moins de 7 points, ils sont gagnés et ça finit toujours par être gagné et c'est incroyable, mais au moins on s'ennuie pas.
Ils sont à 9-0 sur les matchs qui se jouent sur moins de 7 points cette année. Et alors, j'ai quelques stats bien incongrues, parce que c'est les Vikings, on en a toujours. Hein. En attaque, il y a 3 drives sur lesquels ils gagnent 235 yards en cumulé. Et si tu prends les 9 autres drives, il y a 53 yards. Sur la fin de match, on disait New York est dedans. New York est dedans parce que sur les 2 dernières possessions des Vikings, ils gagnent 5 yards en 6 actions. C'est-à-dire qu'ils n'avancent plus à la fin. Et sur ce match, il faut le dire, ils prennent 486 yards. Donc, ils prennent des camions de yards et ils arrivent à tenir à la fin, comme par miracle, sur les 2 derniers drives. Ils sont d'un réalisme qui est délirant cette année.
Je le répète à chaque fois, mais une fois, c'est de la chance. Deux fois, c'est une coïncidence. Trois fois, c'est... Et puis, neuf fois, ça devient quelque chose où c'est l'identité de cette équipe-là. Alors oui, à chaque fois, c'est une équipe. Il y a une quatrième tentative cette fois-ci qui doit être captée, qui n'est pas captée. Mais en fait, à chaque fois, ça arrive comme ça. Et à chaque fois, ça tombe du côté des Vikings. Donc, ça devient plus... C'est quelque chose sur lequel il faut compter désormais. Après, je pense, et je me projette déjà un peu trop rapidement, certes, parce que je parle beaucoup de play-off depuis le début de ce podcast. Mais quand j'imagine aux play-off, là, je pense qu'ils vont y aller, Alain. Tu es d'accord avec moi, les Vikings?
Oui, là, je pense que c'est bon. Ils pouvaient se qualifier hein, cette semaine, c'est juste que la victoire des Lions ne les a pas encore qualifiés.
Donc, ça peut être la semaine prochaine. Je pense qu'en play-off, il va falloir savoir, c'est pour ça que ce n'était pas évident, savoir tuer les matchs. Là, tu l'as dit, les deux drives avec seulement 5 jeux, il faut savoir tuer les matchs et tuer l'adversaire parce qu'on le voit en play-off, personne ne va lâcher et ils vont peut-être tomber contre des équipes qui seront un peu meilleures que les Jets et qui, eux, sauront saisir leur opportunité. Donc voilà, c'est la marge de progression, mais pour l'instant, personne n'arrive à les battre, ou très peu, donc autant continuer.
Après, si on parle des playoffs, de toute façon, les deux équipes qui les ont battues, c'est les Eagles, 24-7, et les Cowboys, 40-3. Donc c'est deux équipes qui n'auront pas du tout pardonné leur irrégularité, je crois.
Voilà,
donc,
clairement.
Ça paraît... Mais bon, après, encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis des semaines, hein, mais... Personne n'aura envie de jouer ces Vikings sur un match. Je sais pas s'ils peuvent en aligner 3 ou 4 pour aller au bout, mais sur un seul match de play-off, il va falloir avoir envie de se coltiner Justin Jefferson et compagnie. Hein.
Et puis, clairement, dans ce que je retiens aussi dans ce match-là, et c'est pas une nouvelle, mais Justin Jefferson est quand même tout de même... extrêmement important pour cette attaque. Les Jets ont fait un plutôt bon travail sur lui, notamment en première mi-temps. On l'a très peu vu. Et puis on voyait que cette équipe-là, quand on le voyait plus trop, avait un peu plus de mal à trouver des solutions. Et puis des fois, il sort du bois, il marque un touchdown. Donc c'est vraiment la clé. Maintenant, c'est un peu ce qu'on disait sur Kelce tout à l'heure. C'est dur de l'arrêter, mais on voit que quand on le calme un petit peu, c'est un peu plus compliqué pour les Vikings.
C'est ça. Eh bien, c'est comme ça qu'on termine l'épisode 551 du podcast Touchdown Actu. On parle de tous les autres matchs de la 13e semaine. Dès demain, ce sera avec Grégory Richard et Raphaël Masmejean. Vous nous retrouvez sur tdactu.com avec tous les liens pour les podcasts. On est sur toutes les plateformes, évidemment. N'oubliez pas de laisser des étoiles ou des évaluations. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide. Il y a plein de nouveaux trucs sur le Tipeee aussi. Allez y faire un tour. Et encore une fois, tdactu.com pour tous les liens. Merci encore, Lucas. À très bientôt.
Avec plaisir.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.